Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nous oscillons entre tabou, injonction, culpabilisation, et dans le même temps, on nous parle sans cesse de déconstruction, d'être hors norme. Alors, comment on s'y retrouve ? Comment réussir à penser une vie sexuelle qui nous correspond, qui ne soit plus affiliée soit à une norme ou soit à un décalage de normes ? Mon invité, Gwen Ekal, nous propose le concept d'autonormie sexuelle. À vrai dire, même si j'en connaissais le concept, je ne connaissais pas ce mot, et donc dans cet épisode, elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Gwen est sexologue et elle défend une sexologie humaniste. Elle est présidente de l'association Les Sexosophes, et grâce à son bagage initial d'enseignante spécialisée, elle forme les professionnels à l'éducation à la sexualité. Gwen, bienvenue sur le podcast.
Merci Camille. Et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici.
Et ben avec plaisir pour ce grand baptême, puisque tu m'as dit que c'était la première fois que tu faisais un podcast.
C'est ça, c'est ma première fois. Donc voilà, c'est un dépucelage de podcast, on va dire.
On revient à ce concept de dépucelage, hein, peut-être même.
C'est ça.
Donc on va revenir sur le concept d'autonormie sexuelle pendant tout l'épisode, hein, on va en parler en long et en large, mais avant ça, est-ce que brièvement tu peux nous dire ce que c'est l'autonormie sexuelle ?
Oui, alors simplement on peut dire que l'autonormie sexuelle, bah, c'est créer et avoir sa propre norme sexuelle. En fait, j'ai repris ce terme d'autonormie qui correspond à un concept développé par Barra Pola dans son livre « Femmes hors normes ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on conçoit toujours nos vies affectives et sexuelles, toujours en comparaison avec les normes. Il y a d'un côté les normes, les relations dans les normes, comme par exemple les relations monogames, hétérosexuelles, et puis d'un autre côté, les relations hors normes, comme le trouble, le polyamour, etc. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux nous montrent bien qu'on est dans une société qui remet encore toujours les normes au centre de nos vies sexuelles, parce que d'un côté, il y a des personnes qui vont revendiquer leurs écarts à la norme, et d'autres personnes mais qui vont se chercher dans quelles étiquettes elles se situent, etc. Et c'est vrai que le concept d'autonormie sexuelle, pour moi, il va plus loin que cette simple définition d'avoir une sexualité à soi, puisque vivre son autonomie sexuelle, c'est aussi sortir des questions d'identité pour entrer dans une affirmation personnelle de soi, de sa vie sexuelle, en ayant conscience de toute l'architecture de notre société, qui peut être politique, capitaliste, colonialiste, enfin vraiment patriarcale, qui va créer un système avec des normes, des dictats et des injonctions. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose que la déconstruction. Je reviens sur ta présentation. C'est différent dans le sens où, dans l'idée de déconstruction, ça impliquerait la notion qu'on est construit et puis à un moment, bah, on se déconstruit, c'est-à-dire qu'on se décale, on se déforme, on se transforme par rapport à notre construction initiale. Alors qu'avec l'idée d'autonormie, l'idée, ce n'est pas de se déconstruire, mais c'est de se construire une norme à soi. Et donc cette norme, elle sera toujours complexe, elle sera toujours évolutive, elle n'est pas figée. Il n'y a donc pas un moment où on est déconstruit et un moment où on est construit. C'est vraiment l'idée de se connaître toujours à l'instant présent, de connaître sa vie sexuelle, sa norme sexuelle, pour pouvoir agir en fonction de soi, en fonction de ses désirs, à l'instant T. Et donc du coup, ça va évoluer. Donc on n'est jamais déconstruit, en fait.
Bah oui, parce qu'en plus, en ce moment, il y a vraiment toute une question sur... faut arrêter d'appeler les gens, ou surtout là, les hommes déconstruits, ça ne veut rien dire, parce qu'on est en fait en soi, tout le temps en construction ou déconstruction, mais en fait, c'est une trame, quoi, d'apprentissage par rapport à sa vie sexuelle. Et tu parlais justement d'étiquette aussi, de se connaître, et de se connaître à cet instant T, de repenser aussi qu'est-ce qu'on souhaite dans notre sexualité. Comment les personnes peuvent faire tout ça quand elles se questionnent justement par rapport à cette norme et elles se trouvent des fois un petit peu en décalage de cette norme et elles se demandent mais qui je suis et qu'est-ce que je veux en fait dans la vie?
C'est vrai que c'est assez complexe. Pour moi, il y a plein de choses à faire. On va dire qu'il y a 3-4 choses à faire un peu. Enfin, à faire. On ne peut pas dire qu'il faut faire des choses, mais on va dire que c'est un peu des cheminements plutôt. Donc la base pour commencer à se lancer dans son autonomie sexuelle, c'est vraiment de s'ancrer sur ses émotions et l'écoute de soi, c'est-à-dire se connaître soi-même. Et donc pour ça, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de soi, une bonne conscience de soi. Et ça va passer par comprendre son histoire personnelle, comprendre l'influence de cette histoire personnelle sur notre vie affective et sexuelle. C'est aussi comprendre les modèles d'identification auxquels on se rattache et aussi toutes les choses qu'on met en place pour se faire valoir. Par exemple, ça peut être pourquoi j'ai besoin de parler de ma vie sexuelle aux autres, en quoi cela me donne de la valeur aux yeux des autres, pourquoi j'ai envie d'avoir une vie sexuelle épanouie en fait, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on met derrière. Et donc, c'est aussi comprendre les masques, les personnages des fois que l'on aime jouer pour se sentir aimé. Cela peut passer par un personnage ultra militant ou d'ailleurs un personnage justement qui est très normé et qui répond à tous les codes de la société. Mais l'important, ce n'est pas le personnage, c'est vraiment ce qu'il représente et ce qu'il dit de nous. Et donc, créer sa propre norme sexuelle, c'est avoir aussi conscience des moments où on joue des rôles, des moments où on joue des personnages et de comprendre pourquoi on a envie de jouer ces personnages-là. Mettre en place sa propre norme sexuelle, c'est surtout pour soi et c'est au-delà du regard des autres. Donc on va le faire pour soi, pas pour les autres, pour se connaître soi-même et surtout pour pouvoir exprimer aux autres ses envies et ses besoins, ses envies en matière de sexualité à l'instant T. Et donc vivre sa vie, sa propre norme sexuelle, ça va passer à la fois par la compréhension du monde qui nous entoure, l'impact qu'il a sur nous, mais surtout par l'écoute de soi et de ses émotions. Si on se questionne perpétuellement sur qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai envie à l'instant T, au plus profond de soi, on fait des choses pour soi parce qu'elles nous touchent dans notre corps et parce qu'elles nous émeuvent. On ne les fait pas parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas pour plaire aux autres. Et on ne va pas faire donc l'amour pour paraître libre ou pour faire plaisir à son partenaire. On va le faire pour soi parce qu'on en a envie. Et donc si on place au centre de sa vie ses émotions, et bien du coup on va vraiment utiliser ces émotions comme une boussole pour agir vers ce vers quoi on veut aller et on va suivre nos intuitions, nos émotions positives pour aller vivre sa sexualité ou pas et de faire en fonction de ce qui nous fait plaisir.
Wow. Et les émotions comme boussole, j'adore. Et tout ce que tu décris, en fait, c'est vraiment vers ce quoi on, enfin, ce qu'on souhaite en fait pour tout le monde dans leur sexualité. Et en même temps, on le voit bien à quel point c'est difficile, même en sachant ça, de se détacher du regard des autres ou même de se détacher, de faire plaisir en fait à son ou sa partenaire et de vivre, comme tu disais, de vivre sa sexualité pour soi, on se rend compte que souvent les gens sont prisonniers en fait du regard des autres, de cette pression sociétale. Comment on fait, au-delà évidemment, hein, tu disais de se connaître, mais déjà de se détacher de ces regards-là et de cette pression et de ce « je dois faire quelque chose en fonction de ce que la société me dit de faire ». Quoi.
C'est très difficile. Donc déjà, il n'y a pas vraiment de recette. Je pense que chacun va trouver sa recette à soi. L'idée dans l'autonomie sexuelle, c'est vraiment d'essayer de prendre le courage d'être soi et d'être soi à l'instant présent. C'est-à-dire de pas aussi se raccrocher, surtout dans le passé ou le futur. Souvent, les personnes vont se dire, quand ils ou elles débutent leur vie sexuelle, ils vont se dire, moi, je voudrais être comme ça, rentrer dans tel ou tel code. Et donc, ils vont essayer d'aller vers ça. Donc, ils vont essayer d'être quelque chose en fonction d'un idéal et non pas vis-à-vis de eux, de juste leurs envies à eux. Et donc, on se crée comme ça tout le temps en fonction de ce besoin qui est humain, en fait, du besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être valorisé, et donc d'avoir conscience déjà de ses besoins, d'avoir conscience de comment on fonctionne, et d'ensuite d'avoir le courage d'être soi à l'instant T. Et pareil, de pas toujours projeter sur le passé, le futur. C'est-à-dire qu'on a notre propre norme sexuelle et affective, elle est à l'instant T. On a une norme à 20 ans, ce ne sera pas la même que quand on sera jeune parent, tu es jeune maman donc tu sais ce que c'est, ou quand on aura 50 ans, ça va évoluer tout le temps, ça évoluera au cours d'une journée, et si on est capable de se connaître soi-même, l'idée c'est vraiment de dire connais ta norme affective et sexuelle, connais-toi, toi-même, et agis en fonction, et ose te définir tel que tu es, tel que tu ressens tes émotions, et non pas en passant par des étiquettes, finalement, on n'en a pas besoin, mais de oser se définir et d'oser l'affirmer face à l'autre. Donc, c'est à la fois la conscience de soi, de l'affirmation de soi, et ça, c'est quelque chose de très difficile, parce que moins on a confiance en soi, et moins on va réussir à s'affirmer face aux autres, et plus on va essayer, du coup, de caler sa vie sexuelle et affective au regard d'une société, qu'on soit hors norme ou dans les normes, d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est qu'avec sa propre norme sexuelle à soi, on cherche pas à savoir si on est en dehors ou dans les normes. On est soi, c'est tout.
Oui, c'est ce que tu disais, j'avais noté, c'est vraiment en fait de l'affirmation de soi. Et pour pouvoir s'affirmer, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, un certain courage, mais surtout une certaine confiance en soi. Et ça, ça va dépendre de plein de facteurs aussi, déjà de l'enfance, de l'éducation, de l'entourage, et puis ensuite de soi, du développement aussi personnel. Est-ce que c'est possible de s'affirmer comme ça dans sa sexualité quand on la débute ? Et quand on la débute, sous-entendu, c'est quand on est aussi un peu plus jeune dans la vingtaine, début vingtaine.
Tout est possible. Est-ce que c'est facile ? Je dirais c'est pas facile, c'est plutôt quelque chose de difficile parce qu'on se construit toujours avec le regard de l'autre et on a envie d'être aimé, on a envie d'être valorisé, c'est un besoin humain. C'est-à-dire l'interaction avec autrui, c'est quelque chose qui est très important. Une des plus grandes peurs, ça va être d'être invisible aux yeux des autres ou de ne pas se sentir exister. Donc, c'est très difficile de réussir à s'affirmer. Alors là, mon côté enseignante spécialisée a envie de dire que c'est quelque chose qui se construit, qu'on construit en tant que grâce à l'héritage familial, parental, grâce aussi à l'école, grâce à toutes les personnes qui peuvent entrer en interaction avec des enfants, des adolescents, qui entrent dans leur vie sexuelle et affective. Et c'est pour ça, souvent, par exemple, quand je fais de l'éducation à la sexualité, je dis souvent, parler du consentement, c'est bien. Mais en fait, si c'est juste faire un cours sur le consentement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, les jeunes, ils comprennent très vite que s'ils ont envie de dire non, ils doivent dire non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il se situe dans l'affirmation de soi. Est-ce que les personnes sont capables de dire non ? Et si oui, comment ils peuvent le dire ? Comment ils peuvent s'affirmer ? Parce qu'en réalité, si on n'est pas capable de dire non, déjà dans le quotidien, dans tout un tas de petites choses, on ne pourra pas réussir à dire non dans le cadre sexuel. Donc ça, c'est valable à la fois pour les adolescents, mais pour les adultes aussi. C'est-à-dire comment je suis capable de m'affirmer, déjà en dehors de sa vie sexuelle et affective, comment je suis capable de m'affirmer face aux autres, face au regard de l'autre. Est-ce que j'ai besoin d'étiquette? Est-ce que j'ai pas besoin d'étiquette? Est-ce que j'ai besoin de crier haut et fort comment je suis? Est-ce que j'en ai pas besoin? Qu'est-ce que ça me fait de voir si on arrive à rester soi et à rester soi sans vaciller si une personne nous dit tu es comme ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Est-ce qu'on est capable de rester authentique? Et ça, ça passe aussi par la prise de conscience des jeux de rôle qu'on a dans la vie tous les jours, en fait, et où certains peuvent parler de masques, et donc des jeux de rôle, des masques que l'on peut se mettre. On va être une personne différente au travail, dans sa vie intime, dans son rôle de mère, et à chaque fois, on a des rôles différents. Et donc, je pense que déjà, si on a conscience de son héritage, de la manière dont on a été aimé, de comment on essaye de se sentir valorisé et des rôles qu'on peut prendre dans sa vie, déjà, ça nous aide à mieux percevoir comment on peut s'affirmer au quotidien. Et c'est vrai que dans l'autonomie sexuelle et affective, en tout cas en sexologie, en sexothérapie, on amène, c'est dans le cas de l'association et moi, en tant que sexologue, j'amène les personnes à se définir sans étiquette, en fait, en essayant de se détacher aussi, justement, des étiquettes pour essayer d'être juste soi. Mais c'est plus difficile.
Il y a plein de choses sur lesquelles je vais rebondir, je te laissais parler, mais j'aimerais que tu parles de ton association, mais avant ça, sur le fait où tu parlais aussi du consentement, et donc, ok, il y a l'affirmation de soi, mais il y a la connaissance de soi, comme tu disais, parce que des fois, si on se connaît pas bien, si on n'est pas sûr de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, on peut très bien dire oui comme dire non, mais en fait, sans vraiment être certain ou certaine de ça, donc. D'où l'importance, effectivement, de faire tout ce cheminement-là d'apprentissage de soi et donc de se détacher aussi de ce qu'on peut attendre de soi et qui, des fois, on peut se dire, en fait, on attend de moi, en tant que jeune femme dans un couple hétérosexuel, que je fasse plaisir à mon partenaire parce que c'est par la sexualité que je me sentirai aimée, sans me poser la question de est-ce que j'ai envie de telle pratique, etc. quoi. Et il y a vraiment ce sentiment aussi... de normes, en fait, c'est d'être visible au sein d'un groupe, parce que c'est important, et en fait, c'est de faire comme ce que fait le groupe, mais comment on sait ce que fait le groupe? C'est ce que les représentations des médias, de la société, ce qu'on va entendre, et en fait, au final, si on ouvre la porte des habitations de chacun, on se rend compte que c'est complètement différent de ce qu'on peut croire. Donc ça, c'est important, comme tu disais, d'en avoir conscience, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des jeux de rôle, du coup. Et ces jeux de rôle, c'est pas forcément négatif non plus, parce qu'on peut avoir cette flexibilité-là, comme tu disais, quand on devient, si on reprend l'exemple, quand on devient mère, ce jeu de rôle, cette casquette entre « là, je suis maman », et puis là, je suis une femme avec une sexualité, d'avoir cette flexibilité-là, c'est super important aussi.
Oui.
Et je voulais revenir du coup parce que tu... Ah oui, vas-y.
Oui, je pense que tu as utilisé un mot qui est très important, c'est la flexibilité. Et moi, j'aime bien parler de fluidité aussi, en fait. Dans l'autonomie, effectivement, il y a cette idée de flexibilité et de fluidité. L'important, ce n'est pas de dire « il faut ou il ne faut pas faire ». C'est oui, on joue tous des rôles de toute façon, mais c'est effectivement, est-ce qu'on est fluide? Est-ce qu'on est flexible dans ces rôles-là? Est-ce qu'on est fluide dans notre perception du monde, notre perception du corps, notre perception du plaisir, du désir? Et d'amener un peu de la fluidité, de la créativité, pour ne pas s'enfermer dans des étiquettes, dans des normes, dans des nouveaux dictats. Et finalement... je trouve que le mot fluidité, en tout cas moi, c'est un de ceux que j'associe le plus avec flexibilité à l'autonomie. Donc voilà.
Ouais. Ok, fluidité. Et alors, tu es présidente de l'association Les Sexosophes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus les objectifs de cette association? Pourquoi tu l'as créée? Qu'est-ce qui s'y passe dans cette association?
Oui. Alors l'association Les Sexosophes, c'est une petite association, toute modeste, que j'ai créée il y a à peu près 2 ans maintenant. Et en fait, c'est parti de... avant MeToo, il n'y avait pas encore d'espace pour parler autour de la sexualité, etc. Donc j'ai commencé à mettre en place ça de manière informelle, Sauf que je me suis séparée, donc du coup j'ai arrêté de mettre en place ces espaces-là. Et après, quand j'ai repris de la force, j'ai eu envie de créer une association pour formaliser un peu les choses. Parce que je crois que la parole, elle est essentielle pour permettre aux personnes de justement de venir chercher leur propre autonomie sexuelle. Et l'objectif de l'association, c'est de permettre aux personnes de mieux vivre finalement leur sexualité, qu'elle soit active ou non. Et ça, c'est très important, parce que dans le concept d'autonomie sexuelle, eh ben, en fait, on s'en fiche de savoir si on a une sexualité active ou non. Et donc, pour ça, on le fait à la fois en faisant de l'éducation à la sexualité, ou en formant des professionnels à l'éducation à la sexualité, en faisant ce qu'on appelle des cafés cul, donc c'est des cercles de parole qui sont centrés sur l'émotion, etc., pour lequel j'avais été formée, que j'ai adapté à la sexologie, qui sont accessibles financièrement parce que c'est des choses à prix libre ou gratuit, etc. Et ensuite, c'est créer des ateliers. Voilà. Et ensuite, c'est créer des ateliers. Ça peut être en ligne, ça peut être aussi des rencontres sur Instagram, enfin voilà, avec des professionnels pour ouvrir la parole et toujours apporter des regards neufs sur la sexologie, en fait.
Ouais. Donc, avoir des espaces où on puisse parler de sexualité de manière décomplexée, très inclusive aussi, parce que voilà, tu accompagnes, comme tu disais, des personnes qui peuvent être considérées justement comme non normatives, comme les couples libres, polyamour, mais tu es aussi éducatrice spécialisée, c'est ça ce que tu avais dit ?
C'est ça.
Ouais, et donc des personnes avec situation de handicap, que ce soit moteur ou cérébral, c'est bien ça aussi. Ouais. Et donc tu es vraiment, ça englobe en fait beaucoup de personnes en fait, tout ça. Tu englobes vraiment, que ce soit au niveau des handicaps, au niveau de LGBTQIA+, plus aussi, les formes de couple, les formes de relations. Et pour toi, pourquoi c'est important ?
Alors, c'est vrai que, quand j'ai eu envie de lancer tout ça, il y avait soit des choses qui se faisaient dans des cercles de parole dans les milieux très féministes, mais qui des fois pouvaient être par exemple transphobes, ou des milieux très puritains. En gros, je schématise, mais c'était assez binaire. Maintenant, il y en a plein. Il y a plein de sexologues. Alors, il y a des gens qui font faire des choses payantes. Enfin, il y a des assos. Il y a plein de choses qui se sont faites depuis. Mais dans la sexologie que je défends, qui est une sexologie humaniste, l'idée, c'est vraiment de faire une sexologie qui soit ouverte à tous et à toutes. Et donc, ça passe par avoir une vision qui est non-binaire de la sexologie. Donc, comme tu l'as dit, ouvert à toutes les personnes LGBT, QIA+, etc., à toutes les formes d'union, de couple, peu importe les modèles, et ça peut être des modèles asexuels, on a des personnes asexuelles, des couples asexuels qui viennent, par exemple. Et aussi, c'est amener les questions d'inclusivité aussi autour du handicap, de parce que, je suis aussi enseignante spécialisée, et le handicap, c'est un grand oublié de la sexologie, qu'il s'agisse de handicap invisible ou visible. Donc du coup, c'est amener toutes ces questions-là, finalement, parce que la sexologie humaniste, c'est une sexologie aussi qui s'ancre pleinement dans un contexte, et notre contexte qui est quand même politique, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi à cœur que les cercles de parole, ce soient des choses qui soient gratuites ou à prix libre, parce que c'est aussi l'idée que ce soit accessible à des personnes qui n'ont pas les moyens de venir. C'est-à-dire d'ouvrir la sexologie à tout le monde. Parce que souvent, c'est un peu aussi les oubliés. Et 5 euros pour certaines personnes, c'est énorme. Donc du coup, c'est vraiment d'englober tout ça. Et ça revient un peu sur l'idée d'autonomie sexuelle. Parce que dans cette vision que j'ai de l'autonomie sexuelle, il y a aussi l'idée de s'éloigner du capitalisme sexuel. Et donc ça passe par la vision très capitaliste de la sexualité dans laquelle on grandit et qui continue encore aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis MeToo, il y a eu une très forte libéralisation de la sexualité, mais en même temps, une très forte marchandisation de la sexualité. Et on voit que le capitalisme a un impact très puissant sur les corps, parce qu'il va à la fois contraindre nos corps à des normes, à des mouvements de lutte, ou utiliser des mouvements de lutte à des fins commerciaux. Donc, il y a aussi cette idée que, avec l'association, avec mon travail de sexologue, c'est d'amener les personnes à vivre leurs propres normes sexuelles en ayant aussi conscience de ça, de la puissance du capitalisme, de l'impact que ça dit aujourd'hui aux personnes, de ce qu'ils doivent faire pour être heureux, et donc qu'ils puissent avoir conscience de vraiment une vision globale de la sexologie, qui soit, ce ne soit pas uniquement centré sur, on va dire, juste des pratiques ou juste de la génitalité, en fait. Mais c'est pas, c'est une vision un peu philosophique, finalement.
Ouais, mais j'adore, parce que c'est tout l'enjeu de ce podcast aussi, et c'est pour ça que tu fais partie de mes invités, c'est de dézoomer par rapport à la sexualité, d'arrêter de se concentrer sur le génital et des pratiques, et des techniques et des recettes spécifiques, de dézoomer tout ça et vraiment de penser et d'amener une réflexion, une conscientisation, et c'est tout le travail que tu fais, donc c'est pour ça que c'est super intéressant et c'était important pour moi que tu puisses parler de tout ça justement sur le podcast. Et quand tu parlais de marchandisation, c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de marchandisation autour du plaisir féminin. Alors, bien sûr, il y a du positif et il y a aussi du négatif. Et avec cette nouvelle norme, presque, je ne sais pas si c'est ce que tu vois aussi en consultation, ce qui revient en cabinet maintenant chez les femmes, et là, c'est les femmes entre... En fait, non, il n'y a même pas forcément d'âge, mais quand même plus, allez, 20, 30 ans, début 30 ans, qui pensent qu'en fait, bah, pour avoir du plaisir, ça passe automatiquement ou seulement ou uniquement par des sextoys. Je ne sais pas si ça, tu le retrouves aussi dans ta pratique, et ce que tu vois aussi, l'impact que ça peut avoir de penser que ça passe qu'à travers un objet, et un objet qu'on achète, et sans ça, il n'y a pas de plaisir possible.
Ah oui, oui, ben je pense qu'on va être nombreux, nombreuses des sexologues à voir un peu ça en cabinet, et on le voit aussi lors des cercles de parole avec l'association. C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes en cercle de parole ou moins en cabinet, mais plus encore en cercle de parole, qui vont nous dire que, en fait, ils sont un peu tombés, ils emploient ce mot-là souvent, ils sont tombés dans la marchandisation de la sexualité. C'est-à-dire qu'ils voulaient, ils ou elles voulaient, mais c'est plus des femmes, en tout cas des personnes qui s'associent au genre féminin, elles voulaient tellement entrer dans cette libéralisation de la sexualité, se dire « moi aussi je veux prendre du pouvoir, je veux reprendre ma vie sexuelle en main », qu'elles disent que j'ai cédé, j'ai acheté tous les sextoys possibles, j'ai acheté des dizaines de bouquins, et en fait elles se stressent énormément et elles se retrouvent complètement perdues, et ça a même un effet délétère, c'est-à-dire qu'ensuite, si en plus elles n'ont pas, entre guillemets, l'effet escompté, du coup elles se disent « ah, en fait je suis fichue ». En fait, je peux pas y arriver, c'est cassée. Pas pour moi, etc. Je suis cassée.
Si même avec un objet, je ne peux pas y arriver, je suis cassée. C'est ce qui revient.
C'est ça. Je suis cassée et du coup, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est en ça où l'autonomie sexuelle, pour moi, il y a aussi cette notion de percevoir différemment le désir. C'est-à-dire qu'en tant que sexologue, et même au niveau de l'association, on prône pas l'obligation d'avoir une sexualité épanouissante, en fait. Et finalement, c'est revoir le désir au sens large et s'extraire de la vie, la vision uniquement sexuelle du désir. Par exemple, avant, il était nécessaire, pour être dans la norme, d'avoir une sexualité obligatoire. Donc on pense, quand on dit ça, au devoir conjugal. Mais aujourd'hui, il faut avoir une sexualité épanouissante, obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir... plusieurs orgasmes, il faut être multi-orgasmique, il faut avoir plusieurs partenaires sexuels, vivre des amours multiples. Donc ça passe par des gens qui viennent en cercle de parole et qui nous disent « mais moi en fait, ça fait 15 ans, je suis super bien, mais j'ai essayé d'ouvrir mon couple parce qu'on me disait tout le temps qu'il fallait le faire. On me disait tout le temps « mais quoi, t'as eu qu'un seul partenaire, etc. » Donc du coup, c'est cette vision de la sexualité épanouissante obligatoire. Et en tant que sexologue, et dans cette vision d'autonomie, ça, pour moi, ça passe par amener les personnes à ce qu'elles reviennent, à ce qu'elles puissent se dire « Non, mais vous avez le droit d'être tranquille, en fait. Fichez-vous la paix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une sexualité libérée. Ce n'est pas la seule voie d'épanouissement. » Et donc, pour ça, on revient souvent sur ces questions, que ce soit en consultation ou avec l'association. On revient souvent sur le désir de manière globale. Et beaucoup de personnes peuvent très bien vivre sans sexualité, et sans sexualité épanouie. Parce que le désir, ça peut être entretenir des relations amicales riches et fortes, ça peut être s'entretenir dans le plaisir de l'art culinaire, de la musique, de prendre du plaisir ailleurs. Mais le dernier tabou, selon moi, un des derniers tabous, reste la non-sexualité. Et donc, on est aussi dans ce concept d'autonomie et de capitalisation. Ça revient vachement mettre en cause ce capitalisme, finalement, sexuel, où on va nous dire, pour être heureux, il faut consommer de la sexualité. Et consommer de la sexualité, c'est presque, je vais faire un stéréotype, mais c'est presque avoir un clitoris en pendentif, avoir plein de sextoys, plein d'amoureux, pas être libertin parce que c'est un peu sale. Non, c'est plutôt avoir plein d'amoureux et pouvoir ressentir plein d'orgasmes à la fois. Et là, du coup, on se dit, ah oui, ça, on est libéré. Alors qu'en réalité, l'autonomie, c'est vraiment cette idée, on ouvre son cœur au désir, au plaisir, et ça, c'est unique, c'est personnel. Et ça peut être sans sexualité. Et je pense qu'il y a plein de personnes, si elles pouvaient vraiment se libérer de ce poids du capitalisme sexuel, elles vivraient, et on le retrouve un peu dans des ouvrages queer, par exemple. Je pense à Talma Desta qui a écrit « Désirer à tout prix » il n'y a pas longtemps, et qui, je trouve, exprime très très bien cette idée. C'est-à-dire que si on libérait les personnes du poids du capitalisme sexuel, en fait, beaucoup de personnes seraient bien plus heureuses qu'une sexualité, entre guillemets, épanouie, en fait.
Oui, en fait, ça serait ça, la vraie libéralisation de la sexualité, c'est qu'en fait, soyez juste heureux, peu importe ce que vous faites être dans votre sexualité. Et que, comme tu disais, on est aussi dans une société performative où on doit être dans le faire, justement. Faire l'amour, faire du sexe, faire des rencontres, faire. Et souvent aussi en séance, c'est dire, mais on peut oublier un petit peu ce faire et être déjà dans la sexualité avant de penser le faire. Et être dans la sexualité, c'est déjà penser la sexualité. C'est fantasmer. C'est vraiment la créativité au niveau cérébral avant même que ça passe par le corps aussi, des fois. Et tu disais un truc aussi qui m'a vraiment intéressée sur cette injonction, où au début c'était l'injonction à avoir une sexualité, donc effectivement le devoir conjugal, et aujourd'hui en fait finalement, sans s'en rendre compte, on en rajoute d'autres, qui est effectivement d'avoir une sexualité, et en plus il faut qu'elle soit épanouissante et satisfaisante. Et c'est vrai qu'avant notre interview, quand je relisais du coup ce que je mets sur mon site internet au prisme de cette autonormie, c'est vrai que je disais, voilà, j'accompagne les individus, les personnes qui souhaitent enrichir leur vie intime. Et alors, moi je peux comprendre ce concept, mais enrichir en fait finalement, comme traduction pour les personnes, ça va être plus satisfaisante, avec plus de rapports, etc. Et donc ça me fait réfléchir à peut-être employer d'autres mots, ou alors à être explicite dans le sens de dire... la sexualité, peu importe comment vous la vivez ou non aussi, hein, parce que tu parlais aussi des personnes asexuelles, des personnes, des couples qui sont très heureux aussi sans sexualité, et pour beaucoup de personnes, ça paraît inconcevable, alors que il y a beaucoup de couples, en fait, finalement, s'ils arrivent à se détacher de ce « on doit avoir une sexualité », seraient super heureux, en fait, de vivre leur couple sans sexualité. Mais parce qu'ils se rattachent à « on doit absolument avoir une sexualité », et quand on leur pose la question « est-ce que ça leur donne envie d'avoir une sexualité ?» Est-ce qu'ils sont heureux sans sexualité ? Souvent, ils vont dire « bah oui, on est heureux sans, on est très satisfait comme ça ». Alors, très bien, continuons comme ça et sans se rajouter une pression supplémentaire. Donc, comme tu disais, en fait, si les gens pouvaient se détacher de ces normes-là, en fait, seraient heureux, tout simplement.
C'est ça. Réussir à se détacher, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est d'autant plus difficile que, avec notre vision du monde et notre monde capitaliste, on n'a pas intérêt à ce que les gens ne consomment pas. Donc, on a plutôt intérêt à vendre aux personnes des sex toys, à leur montrer comment ils peuvent faire pour avoir tout le temps plus de plaisir, etc., à faire 10 000 livres pour avoir la clé de tout ça, alors que finalement, il y a tout un tas de personnes. Je pense que la société, elle serait vraiment différente. En tout cas, le rapport à la vie sexuelle serait différent si on s'autorisait à pouvoir vivre le plaisir et le désir, mais autrement. Et tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Et dans l'autonomie sexuelle, moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, parce que pour moi, créer sa propre norme sexuelle et affective, c'est remettre justement de la créativité. C'est-à-dire, c'est trouver de nouvelles manières de faire, nouvelles manières de faire qui nous correspondent. C'est-à-dire, des nouvelles manières de prendre du plaisir avec son corps, avec ses sens, avec ses émotions, avec sa sensibilité. Et ça, ben oui, pour certaines personnes, ça passe par des fétichismes et des fantasmes et des pratiques intensives. Et pour d'autres, ça passe par juste l'art, la contemplation, la cuisine, par tout un tas d'émerveillements qui ne sont pas sexuels. C'est aussi, dans la créativité, c'est trouver de nouvelles manières d'entrer en relation, de vivre l'amour, de nouvelles manières de consentir. Tu en parlais dans ton podcast sur le consentement que j'ai écouté. C'est aussi ça, c'est trouver de nouvelles manières de consentir, de montrer, d'exprimer, de communiquer. Par exemple, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps là, de Cinéden Sublime qui parlait des 10 degrés de l'amour. Et avec Alain Hiril, ils ont créé, entre guillemets, un nouveau degré de l'amour, Euphoria. Et clairement, c'est dans une démarche hyper autonormée, c'est-à-dire de... Ils et elles avaient envie de créer un nouveau degré de l'amour, ils ont créé ça. Ça va peut-être changer, c'est juste pour eux, c'est juste pour le plaisir, mais c'est l'envie de créer une nouvelle forme d'amour, ils l'ont fait. Et donc, je pense qu'avec cette idée d'autonomie sexuelle et affective, c'est vraiment l'idée de s'autoriser à être soi, à vivre les choses pour soi, à l'instant T, et ça c'est vraiment important, parce que ça évolue, il ne faut pas se renfermer dans des carcans. C'est-à-dire, si une personne a un moment envie d'avoir une sexualité débridée et de faire des fantasmes, ok, mais ensuite, si à un moment elle a envie de complètement arrêter de plus avoir de vie sexuelle active, ce qui n'empêche pas d'avoir, de prendre du plaisir ailleurs, eh ben c'est ok en fait. Et donc d'amener plus de créativité. Et pour ça, eh ben, ça passe effectivement par se décentrer des normes, des injonctions, de se décentrer de ce qu'on attend de nous. Donc, ce qu'on attend de nous, c'est forcément d'aller vers un capitalisme pour l'instant. Mais ça changera peut-être.
Oui, on l'espère. Je pense qu'il y aura une prise de conscience aussi, et encore plus quand il y a une prise de conscience avec l'écologie, puisqu'on sait qu'aussi le capitalisme, et par exemple juste les sextoys, hein, la fabrication de sextoys, ça nous fait penser aussi notre consommation et tout ça. Par rapport à toutes les ressources que tu as citées, je les ai notées, donc je les mettrai en référence du podcast, hein, pour les personnes qui se disent « Ah ben, j'ai pas tout entendu ou tout retenu, ouais. Comme ça sera dit. » Mais est-ce que tu peux revenir sur ce degré de l'amour où tu disais les auteurs et autrices ont parlé d'euphoria? Est-ce que tu sais décrire ce que c'est, ce degré de l'amour?
Alors, ils le font, ils et elles le font très très bien. Alors, j'invite vraiment à voir, bon, déjà, c'est 10 degrés, mais ce degré-là, je l'ai trouvé intéressant. Je ne pourrais pas le décrire aussi bien qu'ils et elles l'ont fait, mais c'est un peu euphoria, c'est un peu l'idée de vivre un instant justement, enfin en tout cas quelque chose, une forme d'amour qui va être un peu dans l'euphorie, justement, quelque chose de très intense, mais qui va pas durer, qui va vraiment être très puissant, très fort, et dans un instant un peu éphémère, un peu quelque chose de magique qui va être un peu en dehors du monde, en dehors de vraiment quelque chose un peu quelque chose de puissant qui va être vraiment éphémère, alors qui peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes, mais avec cette idée vraiment d'euphorie, de magie, enfin... Bon, je ne veux pas en dire plus, je préfère vraiment inviter à écouter, mais...
Oui, on écoutera ça, et du coup, ça me venait la question aussi, est-ce que là, on s'adresse... Parce que tu vois, quand on pense euphorie, éphémère, quelque chose d'intense, les personnes qui nous écoutent et qui sont en couple depuis un long moment se disent l'euphorie, c'est plus trop ça. Par contre, en début de relation, c'est ce qu'on a. Mais est-ce que dans le concept, là, leur degré, le degré d'amour est sur l'euphorie, est-ce que c'est justement ces petits moments, ces petits snaps, là, des petits moments, même dans la vie de couple et de longue durée, où on peut avoir des moments de sursaut un petit peu euphoriques, mais qui restent effectivement pas longtemps.
Oui. Oui, justement, je veux pas déformer leurs propos, donc voilà. Mais en tout cas, je l'ai compris comme ça. C'est l'idée de, c'est comme tu l'as dit, c'est des petits snaps, des petits instants en dehors du temps et qui peuvent se vivre. Finalement, ça peut être juste un instant, un matin où on va. Et tu parlais du présent, et ça en sexologie, c'est très important. Tu es revenu dans ton podcast aussi. Donc de l'instant présent où on va se sentir un peu en dehors du temps, mais ça va pas être la même chose que l'amour ressenti en début de relation, qui là va aussi être le cocktail des hormones, enfin voilà, c'est vraiment plus, ça peut être vraiment quelque chose de juste un moment où on va se sentir euphorique. Alors moi je pense par exemple à la musique. Et il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui ont réagi sur Instagram parce que j'ai parlé des pogo. J'adore faire des pogo. Et je disais... Des pogo, c'est... c'est quoi des pogo? C'est... je peux pas dire... On peut pas dire que c'est une danse. C'est sur du métal et c'est quand les personnes vont se bousculer et vont s'entrechoquer volontairement. Donc, c'est une forme de violence bienveillante. Et en fait... j'avais parlé du fait que ça provoque pour moi par exemple un moment d'euphorie, donc là on serait dans un moment d'euphoria de la même manière qu'un rapport sexuel pourrait me l'amener, un rapport sexuel intense ou une belle rencontre éphémère, parce que c'est un moment très fort et par exemple il n'y a pas de sexualité à ce moment-là, mais dans ma vie personnelle je vais le vivre comme un moment d'euphoria et un moment de plaisir et de désir qui est si intense qu'il équivaut à un moment de sexualité entre guillemets épanouie. Donc c'est pour montrer que voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent se vivre, qui sont pas uniquement ancrées dans la sexualité. C'est vraiment des moments intenses, voilà.
J'en ai deux. Alors un qui est plus lié effectivement au couple et un plutôt en solo de moments euphoria où c'était avec dans un restaurant au Canada où j'ai mangé mais des sushis incroyables, ça m'a donné vraiment un moment d'euphoria justement quoi. C'était tout le corps en éveil et tous les sens éveillés, c'était dingue quoi. Je m'attendais pas à ça. Et le deuxième moment justement en couple où bah voilà, on est jeunes parents avec mon mari et là hier on a fêté nos noces de coton, donc un an de mariage, et donc c'était un moment comme ça, un snap hors du temps que nous deux, un moment où il y a l'euphoria qui est revenue et de se dire ah, c'est encore possible, ah oui il y a des choses, et de réactiver ces moments-là, ils sont tellement importants d'avoir assez régulièrement, même si c'est euphoria, c'est parce que si c'était tous les jours ça serait plus de l'euphorie hein, mais de l'avoir plusieurs fois dans sa vie de couple, ça permet de se dire ah oui, c'est possible, et oui, il y a des choses qui sont possibles à faire, et ça revient encore à la créativité finalement, en fait. On revient toujours à ça.
Complètement. Bon, ça revient à l'instant présent, parce que du coup, c'est savourer l'instant présent. Ça revient à la créativité, c'est-à-dire se dire, ah oui, en fait, je peux prendre des moments de plaisir et de désir intense qui ne sont pas uniquement sexuels, et de les savourer, d'en profiter. Ça revient aussi à l'émotion, et l'écoute de soi, parce que du coup, on va être dans, comme tu le disais, c'est-à-dire tu manges quelque chose et tu prends un plaisir intense à le déguster, à le savourer. Donc, c'est vraiment, c'est toutes ces, finalement, ces concepts aussi qu'on retrouve beaucoup en sexologie qui sont, voilà, là, en tout cas, dans l'euphoria, c'est un instant T. Et dans l'autonomie sexuelle, c'est vraiment d'amener les personnes à être capables d'identifier ce qui leur procure du plaisir, ce qui leur procure des émotions, comment elles vivent leur vie affective et ensuite sexuelle, mais dans le sens, on va dire, d'énergie positive, de plaisir et de désir. Et donc, une énergie qui est décentrée de la sexualité pour certaines personnes et qui peut passer par tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très présent, en dehors de normes, en dehors des étiquettes, donc c'est pas facile quand même.
Ouais. Oui, on a bien compris. Je pense que les gens qui nous écoutent disent des fois peut-être ah bah c'est bien beau tout ça, mais c'est difficile. Et effectivement, ça demande. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus. Ça se fait à travers des lectures, de s'éduquer, d'avoir un accompagnement aussi, hein, sexothérapeutique ou même psychologique, de se questionner par rapport à ça et de le vivre aussi par expérience. Et il y a peut-être des moments où on se conformera à certaines choses parce que ça rassure, parce que c'est peut-être ce qui nous correspondra, mais c'est d'avoir ces questionnements-là. Et tu parlais aussi de certains couples, parce que tu accompagnes du coup les personnes qui sont en situation affective considérée comme non normative, donc couple libre, polyamour, et tu disais aussi que pour certains couples, des fois, comme ils ont entendu, hein, ben, ça devient à la mode, hein, comme ils ont entendu ça, ils se disent, même pour les couples en fait qui vivent des difficultés, ils se disent, bah en fait, d'ouvrir notre couple, c'est la solution. Ou même, hein, peut-être des fois, certains thérapeutes de couple ou sexologues peuvent proposer ça comme solution. Alors, bien sûr, que ce soit polyamour, ouvrir son couple, ça demande quand même des bases, ça demande plein de choses et on ne va pas détailler là. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça justement? Est-ce que tu disais que tu as des couples qui arrivent comme ça en disant bah voilà, on aimerait bien tester ça, mais parce que bah ça va pas dans notre vie intime et qu'on a entendu que bah peut-être une solution ça pouvait être d'ouvrir notre couple.
Oui, ça, il y en a quand même beaucoup. on en a beaucoup, on en a aussi beaucoup qui viennent lors des cercles de parole, etc. Alors quand je les accueille en consultation, mon rôle en tant que sexologue et thérapeute de couple, c'est vraiment d'essayer de les accompagner. Et finalement, j'essaye vraiment de comprendre où se situent leurs besoins. Et en fait, parfois, ils se rendent compte que leurs besoins, ils ne se situent pas là où ils les imaginent, en fait. Et de aussi, il y a aussi toute une part d'éducation, c'est-à-dire de pouvoir leur donner les outils pour qu'ils puissent comprendre comment se situer par rapport à tout ça, et de les amener vraiment sur tout un travail de réflexion, et de pas venir à ça juste en réponse au rejet du modèle patriarcal exclusif. Parce que pour beaucoup, maintenant, il y a un peu la dichotomie de « Ah ouais, t'es pas libre parce que tu es exclusif. » Alors qu'en fait, non. La liberté sexuelle, en fait, c'est dans la tête. C'est quelque chose que l'on vit en soi. C'est pas quelque chose que l'on vit concrètement. Et on peut se sentir tout à fait libre en couple exclusif. Donc du coup, on va beaucoup travailler, enfin, en tout cas, je vais les amener à travailler pour qu'ils puissent comprendre à quels endroits se situent leurs envies, leurs besoins, et ça tourne souvent autour des questions de liberté, pour qu'ensuite, ils puissent comprendre aussi que, en fait, la solution du juste s'ouvrir, c'est pas une vraie réponse à la liberté. Parce qu'en vérité, il y a plein de couples libres qui ne le sont pas du tout. Et ça, mais vraiment, c'est j'ai envie de dire, c'est même une majorité des personnes. C'est-à-dire que, en fait, par exemple aussi, les personnes vont se mettre des... Bah, j'en reviens aux étiquettes, mais c'est vrai que les personnes vont souvent se mettre des très fortes étiquettes. Je suis polyamoureux, je suis libertin, et donc dans ces étiquettes-là, ils et elles ne vont pas s'autoriser à faire ou ne pas faire certaines choses, parce qu'elles veulent répondre.
Quoi, par exemple ?
À des normes. Bah, par exemple, ça peut être des personnes du milieu libertin qui vont se refuser d'avoir des émotions et des sentiments. Ce qui est quand même très compliqué à partir du moment où on partage de l'intimité avec une personne, surtout si c'est régulier. Ça peut être des polyamoureux qui finalement vont pas s'autoriser à vivre certains fantasmes sexuels, justement s'il n'y a pas de sentiments. Enfin, là, je prends volontairement un peu des stéréotypes, mais en fait, assez rapidement, les personnes viennent un peu avec un bagage qui souvent est un peu un bagage plein de stéréotypes, et avec cette vision, et puis avec aussi beaucoup de c'est vrai que il y a beaucoup d'éducation entre guillemets qui est fait sur les réseaux sociaux, mais qui est souvent une éducation ultra personnelle, sauf que le personnel, on le sait en tant que sexologue, ça suffit pas pour accompagner des personnes, et donc les personnes, si elles font les choses juste par mimétisme, se dire « bon, ben moi, j'ai ouvert mon couple, mais je l'ai ouvert de telle manière parce que je pense que c'est comme ça, je vois plein de gens qui font comme ça », ça veut rien dire. En fait, les réponses, elles sont vraiment personnelles à chacun. Dans la sexologie, c'est vrai pour tout. Elles sont personnelles, donc il y a des personnes qui ont besoin de règles, d'autres qui n'ont pas besoin de règles, d'autres qui ont besoin d'ouverture physique, d'autres pas d'ouverture. Enfin, il y a vraiment mille et une manières de faire, et donc ça demande un vrai travail, et c'est pas juste... en suivant par mimétisme qu'on peut se retrouver. Donc de réussir à ne pas se perdre là-dedans, c'est pour ça que moi, les personnes qui viennent, en tout cas, je fais aussi tout un travail, surtout depuis quelques années, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus, entre guillemets, à la mode. C'est pas à la mode, mais en tout cas, c'est plus présent sur le terrain, comme le mot ou le concept de polyamour. Moi, je dis souvent, mais il y avait des polyamoureux avant, en fait. C'est juste que, par exemple, autrefois, on parlait...
Je dis à la mode. Pardon, je dis à la mode parce que c'est un peu quand les personnes le disent, parce que avant c'était caché, c'était honteux de se dire par exemple polyamoureux parce que c'était pas accepté dans la société. Quand je parle de mode, c'est parce qu'aujourd'hui c'est presque quand les personnes le disent, c'est d'une manière, je suis trop cool, moi je suis polyamoureuse ou polyamour, et toi comme tu disais dans les injonctions, enfin pas dans les injonctions mais dans le truc bah toi, t'es exclusif, ou alors toi, t'es en couple hétérosexuel, donc tu n'es pas libre. Alors que, comme tu disais, en fait, la liberté, peu importe la forme du couple, on peut tous et toutes être libres. Encore faut-il être conscient des enjeux et de ce dans quoi on s'enferme aussi des fois.
Oui, complètement. Bah, tu as raison. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont plus, du coup, le revendiquer. Ça a des avantages très positifs. Mais c'est vrai que moi, je reviens souvent avec les personnes et je leur dis souvent... Moi, je mets tout le monde dans le mot libertin, dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire, et même pour les personnes exclusives, c'est-à-dire qu'il y a plein de libertins exclusifs, mais c'est-à-dire qu'ils ont une philosophie de la liberté sexuelle qui est présente et ils le vivent dans leur vie quotidienne, même s'ils sont en couple exclusif. Donc, je le mets dans un gros mot étiquette, et je leur dis souvent, les polyamoureux existaient avant, il y a plein de gens qui existaient avant, même dans le milieu du libertinage, enfin, les choses, encore, on revient à la notion de fluidité, c'est-à-dire de ne pas tomber dans un carcan, dans quelque chose qui, au final, va, dans les étiquettes, qui va, au final, nous enfermer à ça. Et c'est vrai que, quand j'accompagne des personnes, je les amène beaucoup à travailler sur l'idée de qu'est-ce que vous avez envie pour vous, pour votre couple, pour votre union, s'ils sont plusieurs, mais sans mettre d'étiquette. Parce que finalement, une étiquette, c'est vrai que ça peut donner du pouvoir, mais il y a quand même un fort risque d'enfermement. Et plus les personnes vont défendre leurs étiquettes corps et âme, plus elles prennent de place dans leur identité, et plus ensuite, ça va être difficile de s'en éloigner. Et plus finalement, on va se rigidifier. J'ai un exemple tout bête, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps là, sur les femmes libérées sexuellement aux yeux de la société, et il y a plein de gens qui m'ont répondu en MP, en message privé pardon, qui m'ont dit ah oui mais par contre là vous avez mélangé le libertin et les polyamoureux, alors que je suis désolée mais c'est pas la même chose. Mais en fait c'est pas le sujet. Une personne libérée, elle est libérée, c'est presque, déjà c'est philosophique, c'est conceptuel, et on s'en fiche du milieu, en fait, peu importe le milieu. Donc du coup, ça montre qu'on va facilement se rigidifier, et c'est vrai que Barbara Pola, dans son livre, elle dit, une citation que j'aime bien, elle dit, finalement, l'invisibilité à l'ère des médias, c'est presque une sortie un peu obligée de la norme, parce que c'est parfois un hors-norme qui est plus réel et efficace que l'hypervisibilité, qui là va être associée à l'exception, qui va être associée à l'extravagance, à l'excentricité, c'est difficile à dire. Et c'est vrai que, finalement, avec les réseaux sociaux, ça a cet avantage d'éducation, mais ça a cet inconvénient aussi de, finalement, les personnes vont parfois vouloir montrer leur identité comme un étendard pour se montrer, justement, excentrique, hors norme. Et donc, c'est revenir à la norme, finalement, parce que c'est prouver qu'on est bien en dehors des normes, alors que vivre sa propre norme sexuelle, c'est être soi sans avoir envie de faire exception. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire sans avoir envie d'être exceptionnel aux yeux des autres, sans avoir envie d'être différent des autres, c'est juste d'être soi. Et être soi, ben, c'est évolutif. On peut être comme on le veut, peu importe, on est libre. Et quand j'accompagne les personnes, je travaille vraiment à ce qu'ils se détachent au maximum de cette vision très normative de leur vécu sexuel, de leur vie sexuelle, et je leur montre comment ils peuvent finalement vivre les choses sans mettre d'étiquette. Parce qu'en fait, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne asexuelle, l'important, c'est pas qu'elle se définisse comme asexuelle, c'est juste qu'elle soit capable de dire je ne vis pas de désir sexuel, j'ai besoin qu'on le respecte. Pour une personne qui va vivre des relations multiples, l'important, c'est qu'elle soit capable de donner ses valeurs, de transmettre sa vision du couple, du monde, ses unions, c'est de montrer comment elle prend du plaisir, etc. C'est pas de dire « je suis polyamoureux, je suis libertin », ça peut aider, mais sans étiquette, ça permet de rester dans un corps et une philosophie, je pense, malgré tout, qui est fluide. Et je pense que notre société, elle a vraiment besoin de fluidité, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, de flexibilité dans la vision des corps, des amours, des désirs, des plaisirs, et lâcher finalement les étiquettes, ça nous force vraiment à nous ouvrir et à voir l'autre tel qu'il est, et ne pas se définir, ça permet d'entrer en relation et de se laisser découvrir les uns les autres, et le plus important, ça reste du coup l'affirmation de soi. Donc c'est vrai que l'étiquette, elle peut aider à s'affirmer, mais finalement, si on sait bien s'affirmer, Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces étiquettes? Bah, pas tant, en fait.
Ah ouais, à réfléchir. Il y a du positif et il y a des choses à réfléchir par rapport aux étiquettes. Les étiquettes aussi, ça permet des fois de mettre des mots sur ce qu'on vit. On pense être là ou le seul à vivre ça. Donc, ça permet de dire finalement, s'il y a une définition, c'est que je ne suis pas seule à vivre ça. Et en même temps, faire attention à ne pas tomber dans justement cette rigidité que peut causer les étiquettes. Et j'avais noté une citation d'Ovidie qui rejoint justement ce qu'on parlait, ce concept de liberté et de normes, qui est... Et je pense que je l'ai peut-être trouvé d'ailleurs sur ton compte Instagram, ce qui est le problème est que casser... voilà, sûrement. Donc Ovidie dit, le problème est que casser une norme pour en imposer une autre n'est jamais libérateur. Donc ça, voilà, à réfléchir. Ouais, vraiment, ça porte à réflexion. Et je voulais te poser une dernière question, comme on arrive au bout de ce podcast. Si les gens... Pour toi, hein, si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ?
Une chose, c'est difficile, une seule chose.
La première qui te vient en tête, c'est peut-être pas forcément la plus importante, mais celle qui te vient en tête.
Je dirais d'être soi, de s'écouter, d'écouter ses émotions et d'être capable de se les affirmer et de les affirmer aux autres. En fait. C'est vraiment ça, cette notion d'être soi à l'instant T.
D'être soi à l'instant T. Oui, bah en plus, ça résume tout ce que tu as dit tout le long de l'épisode où tu as bien répété que le moment présent, l'instant T, on doit se concentrer sur ça et l'affirmation. Donc, d'être soi au moment T, à l'instant T, ça résume très bien tout ce que tu as dit. Et pour les personnes du coup qui veulent te contacter, découvrir un peu plus ton travail, où est-ce que ça se trouve ?
Ben, les personnes qui veulent me contacter peuvent me contacter par le compte Instagram, donc les-sexosophes, et aussi le site www.lesexosophes.com, et puis ensuite par mail, c'est gwen.sexologue@gmail.com. Voilà, et d'échanger, c'est toujours très important d'échanger, d'ouvrir, je pense, sa vision du monde, sa philosophie, et c'est pour ça que ton podcast est le bienvenu pour amener... chaque personne a justement à réfléchir sur la vision de la sexualité et de s'ouvrir à plein de visions différentes avec plein d'intervenants.
Yes, merci pour ça. Et justement, dites-nous, envoyez-nous un petit message à Gwen, à moi, si vous écoutez ce podcast, prenez une capture d'écran, taguez-nous sur notre Instagram ou laissez-nous même des avis, des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas justement du coup à contacter Gwen qui sera ravie aussi d'entendre vos feedbacks. Et ben, merci beaucoup Gwen, je te souhaite une bonne continuation, on se tient au courant pour la suite.
Merci à toi, merci vraiment pour l'invitation et puis je continue à écouter tes podcasts en attendant que les autres sortent.
Ma première fan.
Voilà, c'est ça, première fan. Donc,
super,
merci encore.
Et bonne journée à tout le monde.
Merci, bonne journée.
Merci d'être allé jusqu'à la fin de cet épisode pour écouter la conclusion. Voilà, vous avez eu l'habitude de m'entendre parler à une seule voix ces 5 derniers épisodes. Et au bout du 5e, je me suis dit, allez, j'ai envie d'inviter d'autres personnes, j'ai envie de vous faire partager d'autres voix, d'autres inspirations, d'autres manières peut-être de penser, de venir enrichir tout ce qu'on peut vous offrir dans la sexologie. Et j'ai bien fait pour vous proposer le meilleur de la sexologie, la crème de la crème comme je l'appelle. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode avec Gwen, avec ce concept d'autonomie sexuelle. Dites-le nous en DM, comme je le disais, sur nos pages Instagram, les sexosophes, ou ma page, Camille parle sexe. N'hésitez pas aussi à le dire avec des étoiles sur Spotify ou sur Apple, avec des commentaires, à le partager autour de vous, à des personnes de votre entourage, peut-être des personnes qui partagent peut-être pas cette vision-là de la sexualité et vous voulez leur ouvrir cette porte, ou des personnes qui au contraire se retrouvent là-dedans et ça ferait du bien de l'entendre aussi. Ça me semblait important pour ces premiers épisodes avec Guest. Là, le suivant, ça sera avec Martin Page pour parler au-delà de la pénétration. Et donc, vous voyez, vraiment, ces deux premiers épisodes avec Guest, j'avais envie de vous proposer un partage de ma vision de ce qui est important par rapport à ce podcast, qui est de penser la sexualité, de penser la norme sexuelle et de s'affranchir aussi, de pouvoir s'affranchir de cette norme Avec ce concept que vous avez entendu d'autonormie sexuelle, c'est tout l'idée de ce podcast à travers les différents invités que vous allez entendre, que vous puissiez vous découvrir, apprendre des choses, réfléchir, questionner, même remettre en question hein, peut-être ce que je vous partage ou ce que vous pensez aussi, pour être en toute autonormie sexuelle, vous créer votre propre norme sexuelle à cet instant T. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite, comme d'habitude, de belles expériences intimes. À tout bientôt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.